podcasts de Radio Vatican.
Amnesty International s'alarme des violences sexuelles préméditées et à grande échelle qui sont commises pour des raisons ethniques au Soudan du Sud. Depuis 2013, le début du conflit opposant les Dinka soutenant le président Salva Kiir au chef de la rébellion, le Nuer Riek Machar, il est impossible de donner un nombre précis de victimes. Mais selon 170 témoignages recueillis par l'ONG au Soudan du Sud et en Ouganda où sont réfugiés des dizaines de milliers de Sud-Soudanais et compilés dans un rapport publié ce lundi, Do Not Remain Silent, ne pas rester silencieux, ce serait des milliers de personnes, des femmes, des filles, des hommes à avoir été violées et agressées sexuellement en toute impunité par les membres de tous les camps engagés dans les hostilités. Ces victimes, sans personne vers qui se tourner pour obtenir de l'aide, se trouvent dans un état de détresse psychologique totale dans un pays en plein conflit. Jean-François Dubost est le responsable du programme Protection des populations à Amnesty International France.
La particularité de cette situation horrible, c'est que en fait, aucune force armée n'échappe à ces pratiques d'agression sexuelle, de viol et même de meurtre. Tous les acteurs, en fait, qu'il s'agisse des forces fidèles au président Salva Kiir ou les forces d'opposition de Riek Machar ou les groupes armés qui leur sont affiliés d'une façon ou d'une autre, tous pratiquent, les uns contre les autres, en tout cas vis-à-vis de leur propre population ou des membres de leur propre ethnie, pratiquent ces violences sexuelles qui, effectivement, sont déterminées et activées, faites en fonction de l'appartenance ethnique ou de l'affiliation supposée à telle ou telle force politique.
Est-ce que l'appartenance ethnique, c'est la motivation? Est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui expliquent ces agressions?
C'est principalement, et ça ressort malheureusement du témoignage de toutes les victimes que nos équipes ont pu entendre, à chaque fois que les personnes ont été arrêtées au bord d'une route, ont vu les forces armées pénétrer dans leur maison, à chaque fois, elles se sont vues reprocher leur appartenance ethnique ou le fait que leur ethnie avait commis des exactions similaires au cours d'un autre combat ou d'une autre période dans le temps. Et ça a toujours été présent, cette dimension ethnique, dans le recueil de tous les témoignages de victimes. Alors évidemment, après appartenance ethnique, il y a chaque ethnie soutenant une personne. Il y a un mélange entre la dimension, l'origine des personnes et puis en même temps leur opinion politique. Mais les deux sont intimement liés et c'est vraiment ce qui est déterminant et récurrent dans toutes ces agressions qu'on a pu relever.
Vous racontez par exemple, et c'est peut-être une exception, mais que dans l'état d'unité, des Nuers, donc partisans du régime, ont violé des femmes qui étaient de leur même ethnie parce qu'on leur reprochait leur manque de motivation politique.
Oui, c'est vrai, ou même on a pu les suspecter d'être plutôt en faveur de l'ethnie des Dinka. Alors effectivement, ça se passe au sein du même ethnie, mais finalement, c'est bien ça qu'on leur reproche, de ne pas être fidèles aux opinions politiques de l'ethnie à laquelle elles appartiennent ou ils appartiennent, puisqu'en fait, les hommes sont également visés. D'ailleurs, les agressions sexuelles à l'encontre des hommes sont complètement sous-estimées, mésestimées, parce que c'est un tabou total dans ce pays. Déjà, on a du mal à connaître l'état des violences sexuelles faites aux femmes, mais pour les hommes, c'est encore pire. Et effectivement, c'est à chaque fois cette motivation de vous appartenez à une ethnie, mais vous n'êtes pas suffisamment engagé au soutien d'hommes politiques de cette ethnie. Donc la conséquence est la même.
C'est malheureusement devenu une expression qui fait partie du langage courant, en tout cas dans l'actualité internationale. On parle de viol comme arme de guerre. Pourquoi cela? En quoi c'est une arme de guerre?
D'abord parce que les forces armées l'utilisent, donc c'était dans le cadre d'attaques. Pas toujours d'attaque, des fois il s'agit de trouver un logement et les militaires agissent de la sorte, mais c'est souvent dans le cadre d'attaques, lorsque des villages, des zones sont attaquées, les femmes systématiquement et parfois même les hommes sont violés au minimum. C'est une arme de guerre aussi parce que des consignes ont pu être données dans ce sens-là. Les personnes qui se battent pour telle ou telle partie n'ont pas de solde, mais en revanche ils peuvent faire ce qu'ils veulent en termes de saisie de biens, y compris avec les personnes civiles qu'ils ont sous la main, si je peux dire, malheureusement. Et puis il y a des faits qui laissent penser que violer les femmes de l'adversaire ou même les hommes, d'une part pour les hommes c'est les rendre absolument incapables de procréer par la suite du fait des sévices infligés, c'est empêcher la reproduction et la pérennité de l'ethnie d'en face. Et puis on voit ce que ça peut faire aussi du côté des femmes, perturber en fait le développement de l'ethnie ennemie par le viol de soldats qui sont opposés.
Vous qui avez du coup pu à Amnesty rencontrer des victimes, qu'est-ce qu'elles deviennent ces victimes quand évidemment elles survivent à ces agressions?
C'est la deuxième douleur, elles se sont senties perdre leur dignité, se retrouver maltraitées de la sorte, violées en réunion et tout autre type de sévices infligés difficilement imaginables d'ailleurs. Certaines ont également perdu la foi dans une région où c'est assez important. Une femme nous disait que c'est comme si Satan lui était passé à travers le corps et qu'elle avait du mal désormais à se réfugier dans la foi qui était la sienne au départ. Et puis surtout, il y a une absence quasi totale de prise en charge d'un point de vue médical. Ce sont des personnes qui sont en état de stress post-traumatique et qui ont absolument besoin besoin de prise en charge. Des personnes pensent à se suicider, clairement. D'autres se réveillent chaque nuit avec l'impression que les soldats sont encore autour d'elles. Les enfants, en plus, ont été témoins souvent des viols de leurs parents. Donc, c'est toute une famille qui est touchée. Sauf si elles sont prises en charge par des ONG présentes sur place ou dans les camps de réfugiés en Ouganda. Et encore, les services sont assez limités. Les personnes peuvent peut-être s'en sortir. Il y a toute la question aussi de le fait de savoir ou non si l'on est porteur d'une maladie sexuellement transmissible. Les personnes vivent avec, sans le savoir parce qu'il n'y a pas de possibilité de dépistage. Et puis le dernier élément, et peut-être l'un des pires aussi, c'est que ces personnes se retrouvent un peu ostracisées dans leur société. Des femmes ont été sorties de leur famille ou de leur communauté parce qu'on leur reproche peut-être même plus qu'à leur bourreau le fait d'avoir été, d'avoir subi un viol. Et pour les hommes, la situation est peut-être encore aussi difficile. Toute la question de la sexualité autour du sexe masculin, justement, est un tabou dans ce pays-là. Alors imaginez, en tant qu'homme, pouvoir révéler avoir été violé, c'est inimaginable. Donc ça fait encore un fardeau supplémentaire pour les personnes. Et il faut savoir aussi qu'il n'y a absolument aucun mécanisme ni pour porter plainte, ni pour avoir un quelconque espoir que la justice intervienne. D'abord parce que aller porter plainte, c'est se signaler et c'est révéler tout ce qui est justement tabou. Et puis par ailleurs, la structure du dispositif de justice dans cet état-là ne fonctionne pas ou pas suffisamment bien. Donc les personnes vivent un peu dans le suspens, dans des sortes de limbes à la fois juridiques, à la fois médicales et psychologiques.
Qu'attendez-vous, ou plutôt qu'est-ce qu'on peut attendre des responsables, des chefs des belligérants?
On attend des choses qui sont fixées par le droit international et il faut absolument le rappeler parce que on peut penser que dans ce type de contexte, les personnes sont un peu dans un monde parallèle que les règles n'atteindraient pas, mais en fait les règles les atteignent, ils sont responsables et redevables. Il faut absolument que toute personne suspectée de tels agissements soit absolument sortie des rangs des groupes armés. Évidemment qu'il y ait des mécanismes qui soient mis en place pour que ces personnes soient poursuivies et jugées et condamnées si c'est nécessaire. Il faut aussi que pour l'État du Soudan du Sud, l'autorité gouvernementale mette en place aussi un mécanisme de prise en charge de ces victimes. Évidemment, on compte beaucoup sur l'Union africaine également pour vulgairement mettre la pression aussi sur les autorités sud-soudanaises et sur les belligérants pour permettre l'accès à des missions à la fois d'enquête mais également de protection des civils. Et il y a aussi un appel aux organisations internationales pour qu'elles renforcent leur présence, en particulier par rapport à ces victimes-là, pour les prendre en charge et pour les protéger.
Des propos recueillis par Marie Duhamel.